explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
C'est presque paradoxal. Alors que nous avons réussi à cartographier la totalité de la Lune, que sa face cachée ne l'est plus vraiment, nous en connaissons les moindres détails, alors que nous envoyons régulièrement des robots sur Mars, il existe, sur Terre, des endroits que qu'on peine encore à explorer. Ces lieux sont pourtant bien plus proches de nous, quelques kilomètres à peine nous en séparent, mais ils restent techniquement plus difficiles d'accès. Ces endroits, ce sont les grands fonds marins. Les scientifiques pensent connaître seulement 5% de la surface recouverte par les mers. Or, les océans recouvrent les deux tiers de la Terre. Autrement dit, la majorité de la surface de notre propre planète nous est encore inconnue, la face cachée de la Terre. Et si nous prenions le temps d'aller bivouaquer au fond des abysses, non loin des sources hydrothermales qui abritent des formes de vie très différentes de celles que nous connaissons.
L'exploration scientifique, y a rien de plus lyrique, on étudie la vie de manière empirique.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Marie-Anne Cambon.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste à l'IFREMER de Brest au sein du laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes. Vous avez participé à plusieurs missions de terrain visant à explorer les grands fonds marins et plus particulièrement les îlots de biodiversité qui se forment autour de ce que l'on appelle les sources hydrothermales. Vous allez partager avec nous vos découvertes et ce que vous avez vécu lors de vos plongées dans les grandes profondeurs. Et puis en deuxième heure, nous remonterons en surface, pas tout à fait sur la terre ferme, puisque nous vous proposerons une petite promenade à Venise. Nous tenterons d'aller au-delà des clichés et de la carte postale pour découvrir quelques secrets de cette ville et de son histoire. Voilà pour le plan de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Hugo Struna.
À bord du sous-marin, il y a trois personnes. Il y a le pilote, le copilote et l'observateur scientifique. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer, puis tout d'un coup, on descend. Et là, la lumière bleue, claire, diminue progressivement. Au bout de quelques minutes, on est dans le noir total. Et puis, on ne bouge presque plus. On entend simplement quelques petits bruits des appareillages à l'intérieur du Nautile. C'est le calme complet, vraiment la sérénité. Et on se dit, enfin, ça y est, on est en train de descendre. Et cette descente, elle va durer une heure et demie, selon la profondeur. On arrive au fond, on se réveille, le pilote allume les lumières, et là on se met le nez sur le hublot et on commence à regarder, et on ne quittera pas cette position pendant les 4-5 heures que vont durer la plongée, tellement le spectacle est fascinant.
La voix de l'océanographe Daniel Prieur, une voix que vous connaissez bien, Marie-Anne Cambon, puisqu'il a été directeur d'un labo dans lequel vous avez travaillé. Et l'expérience de plongée qu'il était en train de décrire, c'est le genre d'expérience inoubliable que font les scientifiques qui travaillent sur les abysses. Ça doit aussi vous rappeler quelques souvenirs, hein, Marie-Anne Cambon.
Ah oui, tout à fait. Ouais, la voix de Daniel, ça fait un petit moment. Et effectivement, j'étais en thèse à l'époque, il y a quelques années, on va dire. Et il y a 20 ans, bientôt.
Et cette plongée qu'il décrit dans les abysses, où on s'enfonce petit à petit dans les profondeurs, dans le sombre, ça aussi, ça doit vous évoquer
des... Ah ça, ce sont des moments inoubliables et uniques, en fait. Hein. On a un petit peu l'impression d'être privilégié, d'ailleurs on l'est. Et lorsqu'on nous ferme la petite boîte au-dessus de la tête pour faire descendre le sous-marin, on n'a plus de sensation que les petits bruits du sous-marin. On est enfermé dans une petite sphère de 2 mètres de diamètre. Et puis effectivement, on attend d'arriver au fond, d'allumer les lumières et on découvre des spectacles absolument magnifiques.
Et parmi ces spectacles, il y a ce que l'on appelle les fumeurs noires, ces sources hydrothermales. C'est quoi exactement ces fumeurs noires ?
Alors en fait, pour parler simplement, les fumeurs noires, c'est un petit peu comme des volcans sous-marins qui se situent juste à la jonction de deux grandes plaques tectoniques. Et dans les fonds marins, c'est là où les plaques s'écartent et que la nouvelle surface de la croûte océanique se crée. Et par endroit, on a de l'eau froide qui rentre et qui ressort sous forme de geysers. Mmh. Et ces geysers qui rentrent en contact avec d'autres mers froides fabriquent des précipités de minéraux et qui fabriquent petit à petit une grande cheminée. Dans l'Atlantique, elles peuvent atteindre quand même plus de 20 mètres de haut. C'est assez impressionnant. maintenant. On les a largement au-dessus de la tête quand on est avec le sous-marin.
C'est des paysages incroyables auxquels le commun des mortels n'est pas habitué. Vous êtes une privilégiée incroyable d'avoir vu ça de vos yeux.
Ça, c'est sûr. On est des privilégiés. On est très peu nombreux sur la planète à avoir cette chance-là, de les voir de nos yeux, de pouvoir apprécier la surface, les volumes. C'est un petit peu comme si on se baladait dans les volcans d'Auvergne, mais qui seraient encore actifs.
Oui.
Et qu'on observe les distances, les formes, les couleurs. C'est enrichissant et ça marque vraiment. Quand on remonte, on ferme les yeux et on voit encore tout notre site en relief. On pourrait presque le faire en pâte à modeler.
Ah oui. Alors, il y a une découverte historique qui a été faite sur ces fumeurs noirs. C'était en 1977, il y a tout juste 30 ans. C'était en avril 1977. Je laisse les découvreurs de cette découverte raconter ce qu'ils ont vu ce jour-là. Jacques Corliss et Cathy Crane à bord de l'Alvin. C'était le nom de leur sous-marin. Donc, deux océanographes qui racontent cette première grande découverte.
Cathy était dans le bateau mère à la surface. Elle guidait Alvin, là où les appareils photos sous-marins avaient vu plutôt les cheminées. Les coquilles de mollusques avaient marqué l'endroit. Ils pensaient qu'elles avaient été jetées là par un bateau.
Le conseil que je leur donnais était de regarder par le hublot. Et là où on voyait des coquilles blanches de mollusques sur un fond de roche volcanique noire, on y était.
Je regardais ma température et juste à ce moment-là, les pilotes ont dit qu'il y avait des mollusques ici.
Pas seulement des coquilles, mais des organismes vivants. En fait, il y avait beaucoup de vie ici. Une vie étrange. Des mollusques colombiers, des moules, des crabes, juste à côté de cette cheminée longue, toxique et fumante.
C'était stupéfiant, cette eau magnifique et paisible, et les animaux qui dérivaient paresseusement dans cette eau semblable à une station thermale, comme un jardin d'Éden.
Et ensuite, il y avait les vers, 3, 4, 5, peut-être 6 pieds de long dans des tubes minces qui émergeaient des roches comme un champ de fleurs.
Des tubes blancs et ces belles plumes rouges. C'était comme une plume tridimensionnelle, d'un rouge vif, oscillant et ondulant. C'était étonnant.
C'était la première fois que des hommes assistaient à un tel événement. Le scientifique à l'intérieur d'Alvin a utilisé un bras mécanique avec des pinces pour saisir délicatement certaines de ces créatures.
Nous avons apporté ces choses et tout ce que nous avions pour les transporter était de la vodka.
Ils ne s'attendaient pas à trouver des animaux là-bas.
Nous avons appelé l'Institut Woods Hole pour demander « Eh, un biologiste peut-il nous dire ce que c'est ?» Ils ont dit « Quoi ? Nous ne savons pas ce que c'est. Gardez tout. »
C'est la première fois que quelqu'un avait vu une communauté d'organismes dont la vie était basée sur la chimie, sans l'énergie du soleil. Nous avons commencé à en parler sur le bateau. Est-ce que ça aurait un rapport avec l'origine de la vie ?
Une découverte aussi incroyable qui va avoir des conséquences pour la suite. Il y a 30 ans, donc, ces chercheurs découvrent une forme de vie là où on ne s'attendait pas à la trouver. Vous me disiez avec un grand sourire en écoutant cette archive, Marie-Anne Cambon, ça a dû leur faire tout drôle quand même
de trouver de la vie à cet endroit. Ça a dû être un choc parce qu'à l'époque, on était vraiment persuadés que vie égale lumière. Et donc, en dessous de 200 à 500 mètres, grand maximum, c'était pas possible qu'il y ait une vraie vie, qui est des coquillages qui soient tombés dans un trou. Certains avaient réussi à en prélever très profond avec des grappins ou des petits chaluts, mais qui est de la vraie vie installée, luxuriante et qui bouge, ça a dû être un vrai choc. Ouais. C'est un grand paradigme de la biologie qui est tombé. Ouais. Il y a de la vie au fond et on a beau descendre profond, il y a encore de la vie. Quoi.
C'est-à-dire en pleine obscurité, là où la photosynthèse ne peut pas se faire. C'est-à-dire que les écosystèmes tels qu'on les connaît à la surface, c'est la photosynthèse qui est à la base de toutes les chaînes alimentaires.
Complètement.
Là, il n'y a pas de photosynthèse et pourtant la vie pullule autour de ces fumeurs noirs.
Tout à fait. Donc en fait, sur la surface, la photosynthèse, donc l'énergie lumineuse, permet aux plantes ou aux bactéries vertes de faire de la matière organique primaire. Après, les animaux vont brouter les herbes. Et ben au fond, c'est exactement la même chose, sauf que la vie, elle est microbienne et elle utilise la chimie qui est émise par les volcans sous-marins pour fabriquer de la matière. Et de la chimie qui devrait nous tuer. L'hydrogène sulfuré, le méthane, le dioxyde de carbone. Et grâce à ça, vous avez toute une vie qui vit autour et qui soit se nourrit des bactéries en les mangeant, comme en ruminant le frais avec son herbe, soit elles établissent ce qu'on appelle des symbioses, c'est-à-dire qu'elles hébergent les bactéries qui les nourrissent.
C'est-à-dire que vous dites la vie est microbienne, la base de la chaîne alimentaire est microbienne, mais on a des organismes de taille respectable.
Tout à fait, on a des vers de plus de 2 mètres de haut, on a des agrégats de crevettes jusqu'à 2000 individus au mètre carré qui grouillent devant nous comme un essaim d'abeilles, d'ailleurs avant on l'appelait ça des essaims. Et oui, c'est assez impressionnant. C'est quand on parle d'oasis de vie et que c'est luxuriant, c'est il y a vraiment de la matière. C'est assez impressionnant. Ouais.
Et alors, il y a encore bien des choses à comprendre sur la façon dont la vie s'organise et s'épanouit dans ces lieux particuliers. C'est pourquoi des expéditions sont régulièrement organisées. En 2014, vous étiez, vous, chef de la mission BICOSE. BICOSE pour biodiversité, interaction, connectivité et symbiose au milieu extrême.
Tout à fait.
En milieu extrême. C'était à bord du navire Le Pourquoi Pas. Voilà. Le Pourquoi Pas en BICOSE, hommage à... Ah oui, d'où le BICOSE aussi. Mais le Pourquoi Pas, que de jeu de mots, le Pourquoi Pas. Par contre, c'était en hommage au commandant Charcot, dont on a parlé dans cette émission. Quel était le but de votre mission BICOSE exactement?
Alors nous, c'était une mission de biologie, mais qui avait en fait... plein d'aspects, parce que dans nos études, on essaye de comprendre. Alors, on a un mois, pour 3-4 ans, on a un mois à bord d'un bateau pour faire tous nos prélèvements, toutes nos mesures et essayer de comprendre non seulement qui est là, la diversité, le côté catalogue, mais surtout comment ça marche, comment ça fonctionne, sans lumière, avec de l'énergie chimique, avec des températures un peu violentes. Hein, les fluides purs, ils sont à presque 400 degrés. Les animaux, ils ne sont pas, mais les fluides purs sont à 400 degrés. Et donc, nos études, c'était déjà de relever les cartes, de faire des recherches des sites, de faire les photos, les vidéos et de prélever des animaux et leur substrat, leur milieu de vie, et d'essayer de comprendre quel est leur environnement naturel.
Et vous êtes allé où exactement pour faire ces études ?
Alors, la mission BICOSE avait lieu sur la rive médio-atlantique.
Ouais.
Vous tracez une droite à peu près entre les Antilles et les Canaries. C'est en plein milieu, à 6 jours des côtes, pendant 35 jours.
Pendant 35 jours,
au-dessus de l'eau.
Seul en mer, avec
70 personnes en mer sur un bateau perdu. C'est exactement ça.
Quelle ambiance il règne à bord pendant ces missions ?
Alors, l'ambiance est à la fois très studieuse, on est très concentré, on fait beaucoup, beaucoup d'heures parce que, on n'a que ça à faire, en fait, à part manger, dormir, on travaille et puis on discute et tout, évidemment. Mais c'est vrai qu'on sait tous qu'on a un mois pour faire tout ce qu'on a envie de faire, donc le temps est précieux. Et c'est une ambiance très studieuse et en même temps hyper, j'allais dire, symbiotique.
Ouais.
Tout le monde aide tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit quand on est sur nos expéditions comme ça. Et c'est vraiment agréable parce que c'est pas forcément la vie, entre guillemets, courante.
Ouais.
Et c'est vrai que tout le monde aide tout le monde, entre les marins qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien, les scientifiques dans les labos qui s'organisent pour aider les uns les autres. Quand on a fini quelque chose, on va aider celui qui n'a pas fini. Et puis les gens du sous-marin qui opèrent le sous-marin le mieux possible pour...
Le sous-marin, en l'occurrence, c'était le Victor 6000.
Tout à fait.
Donc c'est un robot. Hein. Personne à bord de ce sous-marin-là. C'est un robot téléopéré, 6000 parce qu'il peut descendre jusqu'à 6000 mètres. Et comme évidemment le temps de robot disponible est ultra précieux, en fait le robot marche et fonctionne 24 heures sur 24. Autrement dit, il n'y a plus vraiment de jour et de nuit. Dès que le robot est disponible, des scientifiques doivent prendre le relais pour aller explorer les fonds marins.
C'est exactement ça. En fait, on est au service de l'échantillonnage et du travail du robot. Donc en général, je prévoyais des plongées, et le robot partait le soir, il passait toute la nuit au fond, toute la journée du lendemain, toute la nuit suivante et remontait qu'après, puisque on a jusqu'à 48 heures de possibilités de travail. Après, quand on a pris trop d'échantillons, il faut bien le faire remonter, mais on essayait effectivement, nous on se relaye toutes les 4 heures en quart.
Donc ce robot est capable de prélever des échantillons,
il fait des mesures.
Ouais.
Il fait des mesures avec les appareils scientifiques ou ses propres appareils. Il fait de la vidéo, de la photo et il fait des prélèvements d'échantillons.
Ouais, ces échantillons qu'il faut ensuite remonter à la surface avec certaines formes de vie qui ont du mal à remonter à la surface.
Oui, alors du coup, on travaille avec nos collègues de Paris qui ont développé des systèmes d'ascenseurs qui remontent les animaux sous pression.
Et oui, parce que
c'est le challenge.
Leurs conditions qui sont absolument infernales pour nous, eux, ils y sont bien. Hein. C'est pressions très très importantes, des pressions énormes.
Oui.
Au fond des océans.
Tout à fait, on était à 3600 mètres, donc effectivement, ça fait du poids d'eau, 3,5 km d'eau sur la tête. Et eux, ils sont parfaitement adaptés. C'est pour ça que je dis toujours, ils ne survivent pas au fond.
Oui,
ils vivent.
Oui. Par contre, dans nos conditions à nous, ils ne survivent pas. Vous avez aussi effectué des plongées en sous-marin avec le Nautil, hein, c'est-à-dire cette
Tout
fois-ci, pas avec un robot, mais vraiment à bord du sous-marin. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Et puis, vous nous décrirez ces étranges animaux que vous étudiez, vous, plus particulièrement. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Et puis, un petit mot pour vous dire que pour ce mois de juillet, l'émission a été podcastée plus de 274 000 fois, nous dit-on. C'est trois fois plus qu'il y a un an, en juillet dernier, pour le Temps d'un Bivouac. Merci donc d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans nos aventures. Les émissions du mois de juillet sont encore podcastables, bien sûr, pour ceux qui étaient en vacances et qui voudraient faire des sessions de rattrapage. Maybe I listen more than you think. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking. C'était The System Only Dream in Total Darkness de The National sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise.
Avec un détachement apparent, le capitaine Nemo détenait la clé de l'avenir du monde. À mesure que je l'étudiais, je prenais conscience que cet homme étrange était habité par des forces gigantesques.
Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout y règnent aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat, on se dévore, on se taille en pièces.
Mais à 20 pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. J'y suis libre.
Extrait de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, en tout cas l'adaptation au cinéma. Marianne Cambon, Jules Verne, est-ce qu'il y est un peu pour quelque chose dans votre goût pour l'aventure et l'exploration ?
Je crois qu'il y est forcément pour quelque chose, puisqu'on a forcément tous lu ça quand on était petit. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, petite, je voulais étudier les volcans, d'abord. Et quand je m'ai vu qu'il y avait des volcans sous l'eau et qu'il y avait des micro-organismes, des bactéries, je me disais c'était une bonne solution et c'était un bon lieu d'étude. Et le sous-marin, je l'ai découvert qu'après. Mais une fois qu'on y a goûté, on ne peut pas s'en passer, ouais. Parce que c'est une expérience... tellement importante scientifiquement parlant que ça a aucune commune mesure avec simplement regarder des vidéos. Quoi.
Alors vous, ce n'est pas le Nautilus que vous avez testé, c'est le Nautil, c'est dans ce petit sous-marin jaune, ça aurait plu aux Beatles.
C'est ça.
Vous êtes descendu, alors vous dites que c'est une expérience incroyable, inoubliable, prenez le temps de nous la faire partager. C'est-à-dire que ce petit sous-marin avec trois places à bord, quand on y entre, c'est pour plusieurs heures, des longues heures.
Ça.
Comment ça se passe ? Racontez-nous la descente dans les abysses.
Donc en fait, le sous-marin a effectivement trois places. Donc le pilote est allongé sur la gauche, le sous-marin est gaucher. Le scientifique est allongé sur la droite. On a tous les deux une petite bannette et on a un copilote qui est assis derrière nous. Donc le scientifique, en fait, il dirige la plongée. Scientifiquement parlant, il explique ce qu'il faut faire. Le pilote fait ce qu'il faut pour prélever au mieux, faire les mesures et piloter l'engin. Et le copilote fait tout ce qui est communication avec la surface, vidéo, gestion de la route.
Et alors donc, c'est les missions qu'on vous alloue à chacun. Puis on voit pourquoi allonger ? Pourquoi tout le monde n'est pas assis dans ce...
Alors les Japonais sont assis en tailleur sur une espèce de tatami. C'est, il paraît, assez inconfortable au bout d'un certain temps. Et donc en fait, il y a trois hublots. Et donc la position ergonomique, entre guillemets, la mieux au jour d'aujourd'hui, c'est quand même d'être allongé. Et c'est vrai que à la mise à l'eau, on peut bouger un petit peu, puisqu'en fait le sous-marin, donc il recule sur le pont arrière, on ferme le dessus de la sphère. Hein, c'est un peu une cocotte minute qu'on verrouille au-dessus de notre tête. Ouais. On entend un grand clac.
Ça a un côté angoissant, ça. Ce moment où on verrouille, comme vous dites, on entend le grand clac et on sait qu'on va partir à 3000 mètres de profondeur.
Alors personnellement, ça ne m'angoisse pas, mais je sais qu'il y en a qui m'ont dit que c'était un moment où ils disaient bon bah ça y est, on peut pas faire demi-tour quoi. Donc là après, on se sent soulevé par le portique du bateau, on se sent projeté sur l'extérieur et on voit du hublot, on voit l'eau en dessous de nous tout d'un coup. Et là, on descend tout doucement dans l'eau, parce qu'il ne nous lâche pas, hein, il nous descend tout doucement. Et là, c'est le seul moment où on peut avoir le mal de mer. C'est parce qu'on est en train de flotter sur la surface, on voit les hélices du bateau qui tournent tout doucement devant nous. Et puis le bateau qui s'éloigne, le sous-marin qui recule, les plongeurs viennent autour des hublots nous faire signe, savoir si tout va bien. Et quand on a tout vérifié, on a autorisation de plonger. Donc là, pour descendre à 3000 mètres, il faut à peu près une heure et demie. Ouais. Le sous-marin, il coule en fait. Il descend tout seul sur son propre poids en faisant une petite toupie. Il descend très doucement.
Un peu comme une feuille morte qui tomberait
exactement.
Au sol.
Exactement. Et alors, on n'a pas de sensation de mouvement. Étonnamment, c'est un silence incroyable. C'est un grand confort parce que ça ne bouge plus.
Et qu'est-ce qu'on voit par le hublot alors ?
Alors au début, on voit un petit peu le jour qui diminue, mais ça va très très vite puisque 500 mètres, c'est quelques minutes. Donc très vite, il fait nuit. On voit quelques animaux luminescents, mais très peu. Personnellement, j'ai vu une ou deux fois des poissons au tout début, mais c'est rarissime. Et pour garder l'énergie, on n'allume pas les phares au début, donc on ne regarde pas dehors, en fait.
Mais quelle ambiance il règne à bord ? Donc il fait nuit, on n'imagine pas un bruit ?
Il y a à part les bruits des ordinateurs, on a un petit ping de temps en temps, on a le petit coucou qui nous rappelle que toutes les demi-heures, on doit communiquer avec la surface pour vérifier que tout va bien, et puis dire ce qu'on fait. Et donc, en général, on en profite pour mettre une petite musique. Et puis, le copilote vérifie qu'on a bien lu le manuel de sécurité de l'engin.
Ah oui.
Parce qu'en cas de problème au fond, le scientifique doit être capable de remonter le sous-marin. Donc, on fait un petit checklist. Et en général, alors, il y en a qui le font à la descente, d'autres à la remontée. Moi, souvent, je profite de la descente pour manger. Donc, on a un petit encas, un repas qui est préparé par les cuisines. Et donc, petit à petit, par contre, ce qu'il y a de très marquant, c'est que petit à petit, l'humidité gagne la sphère à l'intérieur, à tel point que ça coule le long des surfaces de titane. On peut poser du papier, ça me sert d'ailleurs de support pour mettre mes cartes.
Ouais. C'est la condensation.
C'est la condensation de notre respiration, en fait. Hein. Ouais. Et dehors, il se met à faire 2 degrés très vite. Donc là, on met le petit bonnet en laine, les grosses chaussettes en laine de ski.
C'est pas chauffé. Il fait froid à bord.
Il fait froid.
On est en tenue de ski, en fait.
Une petite dizaine de degrés, je pense. J'ai jamais regardé la température intérieure, mais c'est une petite dizaine. D'ailleurs, ils nous disent toujours, prenez bien une polaire, une serviette pour mettre autour du cou pour pas avoir froid, et le bonnet, et voilà.
Et une fois qu'on touche le fond?
Alors là, ils s'arrêtent juste avant le fond, ils nous font une petite pesée pour vérifier qu'on est équilibré, et là, ils allument. Et alors là, c'est magique. C'est magique. C'est en général, comme on a une très bonne cartographie, on arrive, on est sur une zone légèrement sédimentaire, donc on voit un petit peu de sable, et puis on voit ces gros oreillers là, les laves en oreiller, les pylolavas, tout gris.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des formations géologiques?
C'est la lave qui sort sous l'eau, qui fait ces grosses boules de lave qui durcit tout de suite au contact de l'eau, comme on trouve sur Hawaï, par exemple, qu'on voit souvent à la télé. Et quand on avance, petit à petit, on voit des petites taches blanches apparaître au hublot, c'est des petites anémones. Et puis on avance encore un petit peu, il y en a de plus en plus, puis on commence à avoir des galatées, c'est des petits crustacés. Et ça, c'est le témoignage qu'il y a de la vie pas loin, il y a de la chimiosynthèse pas loin, parce qu'il y a à manger. Et quand on continue d'avancer, il y a de moins en moins de sable. Et puis tout d'un coup, on se retrouve face à des murs, à de la fumée, à des crabes, des crevettes, des moules. Et là, on est au pied des cheminées, et là, on prend toutes les couleurs dans la vue.
C'est coloré, alors?
C'est très coloré. C'est magnifique.
Ce monde n'est jamais éclairé, à part quand vous débarquez avec vos phares.
Voilà.
La couleur existe.
La couleur existe, et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de montrer quand on ramène nos images. On a toutes les teintes des jaunes, ocres, rouges. C'est dû aux dépôts de fer. On a aussi des teintes dans les bleus ou les verts avec des dépôts de cuivre. Tous les minéraux sont là dans toutes leurs formes. Ce qui fait qu'on a un jeu de lumière assez magnifique et les animaux sont très colorés.
Ouais.
Il y a des oranges fluo, il y a du rouge. Le seul truc que je n'ai pas vu, je crois que c'est du bleu. Mais en fait, sinon, on a toutes les couleurs. On a des patelles qui sont rouges, d'autres qui sont violettes, d'autres qui sont vertes.
Et alors vous, la crevette dont vous vous occupez, celle qui occupe tout, qui est au cœur de vos études, elle s'appelle Rimicaris exoculata,
voilà,
j'ai bien prononcé.
C'est ça.
Elle est de quelle couleur? Elle ressemble à quoi?
Alors c'est une crevette quand même, qui a quand même encore à peu près la tête d'une crevette. Elle a la couleur, petite, elle a une couleur rouge-orangée, très, très colorée, c'est presque fluo en fait comme couleur. Ce sont les lipides, en fait, c'est les graisses qu'elle a au niveau de la tête qui font ça. Et au fur et à mesure où elle grandit, elle va se teinter de la couleur des minéraux qu'elle rencontre. Donc si on est dans une zone où il y a du fer, elle va être orangée, rouge.
Parce qu'elle passe son temps à manger des minéraux. Hein,
voilà, en fait, c'est ça qui a attiré l'œil, entre autres, de Michel Segonzac, qui travaillait avec moi autrefois à Ifremer avant sa retraite. Cette bestiole, elle a tout de suite attiré les biologistes parce qu'elle grouille, mais vraiment comme un essaim, autour des cheminées, mais vraiment elle est collée aux fumeurs. On a l'impression qu'il fait très chaud. D'ailleurs, des fois, on voit des carapaces toutes brûlées.
Ouais. Mais il y fait très chaud.
Et on a l'impression qu'elle mange toute la journée du caillou. Or, on sait bien que la vie ne peut pas manger du caillou.
C'est ça.
Donc ça a posé question.
Elle ressemble quand même pas à toutes les crevettes, cette crevette.
Non, elle a une tête énorme, en fait.
Oui.
On dirait un hamster qui a les bajoues toutes pleines. Bah, c'est pareil. Elle a la tête, en fait, est immense, fait la moitié de l'animal. Enfin, ce qu'on appelle le céphalothorax, la tête plus une partie de l'arrière. Et ça, c'est vraiment le hamster. On s'est toujours dit ça. Et les premiers biologistes qui l'ont étudié de près avec des microscopes électroniques se sont rendus compte qu'à l'intérieur des bajoues, c'était rempli d'un tapis de bactéries, mais comme un champ d'herbe. Hein. C'était vraiment l'image qu'ils en ont dit, c'était ça. On dirait qu'il y a de la pelouse à l'intérieur.
Mais qu'est-ce qu'elle fait avec toutes ces bactéries dans la tête?
Eh bien, en fait, cette bestiole-là, elle mange par la tête. Ces bactéries, en se multipliant, elles fabriquent leur propre matière pour elles, parce que les bactéries, elles vivent pour elles. Hein. Et en échange de quoi, elles sont hébergées par la crevette et elles nourrissent directement la crevette par la tête. Elle a encore son tube digestif.
Mais elle ne s'en sert pas.
Elle s'en sert très peu, manifestement.
Juste
nos dernières études nous montrent qu'il est plein de cailloux. Donc, il y a forcément un rôle qu'on n'a pas encore compris, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore compris. Il y a forcément un rôle, mais la majeure partie de ce qu'elle mange viendrait directement par la tête.
Ouais. Alors, c'est intéressant. Hein. Vous dites qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore compris, parce qu'effectivement, on n'y va que quelques heures. On observe. Par exemple, à un moment, vous vous êtes demandé, mais comment ils se reproduisent?
Ça, c'est la grande question.
Ces organismes.
Alors, on a c'est la grande question. On commence à peine à y répondre. C'est comment elles se reproduisent, où, D'abord, on ne sait même pas quel âge elles ont. Plein de gens me demandent, mais combien de temps ça vit ? Je ne sais pas.
Ouais.
Aucune idée. Alors, on s'était dit, on va mettre des paintballs, on va mettre de la peinture avec le sous-marin. Bon, l'ennui, c'est qu'elle mue tous les 10 jours.
Ah.
Donc, c'est hyper rapide.
Elle perd sa peau tous les 10 jours.
Elle perd toute sa carapace tous les 10 jours et toutes ses bactéries. Alors qu'une crevette côtière, c'est 21 à 48 jours.
Ouais.
Donc, elle mue très, très souvent. Et jusqu'à maintenant, pour plonger avec un sous-marin, c'est un petit détail qui a son importance, il faut que la mer soit calme. Si la mer est trop agitée, le risque d'abîmer le sous-marin ou le bateau est trop important, donc on ne plonge pas. Du coup, on plonge en général l'été pour nous.
Mmh.
Et c'est très rare d'avoir des plongées l'hiver. Donc là, ça a été un peu un pari, parce que les zones sont plus proches de l'équateur, de partir l'hiver. Et on a eu la chance en 2014 d'avoir beaucoup de femelles avec des œufs et de pouvoir commencer à essayer de comprendre comment ça marche.
Il y a donc des saisons, y compris au fond des océans, à 3000 mètres de profondeur, là où il fait tout noir.
Il semblerait que oui.
Alors, pour les comprendre, ces animaux, il y a aussi une autre possibilité, c'est de les remonter en surface. Mais on l'a dit, c'est quand même compliqué parce que comme ils sont habitués à vivre à des pressions extrêmes, quand on les remonte en surface, ils ne sont pas du tout adaptés et donc ils ne survivent pas. Donc, il faut faire des aquariums spéciaux. Et à l'Océanopolis de Brest, que vous connaissez bien, on a même fabriqué ce qu'on appelle des Abyss Box, des petits aquariums particuliers pour que le grand public puisse enfin voir ces espèces si différentes de celles que nous connaissons à la surface.
Nous sommes dans un nouvel espace à Océanopolis qui a été créé pour accueillir cette exposition Abyss Box. Cette exposition va permettre de montrer au public pour la première fois au monde des animaux qui vivent à des très grandes profondeurs, qui ont été collectés spécialement pour cette occasion et qui sont maintenus dans les Abyss Box, qui sont des aquariums pressurisés où on reconstitue la pression qui existe à 1800 mètres de profondeur.
Alors l'exposition était présentée en 2012, aujourd'hui je crois que l'exposition n'y est plus, mais les aquariums ils sont encore, ces fameux Abyss Box. Et ce qui est absolument incroyable quand on les voit, c'est que c'est des hublots d'une épaisseur, ils sont assez petits, ils sont ronds, c'est des hublots très épais, parce que ça n'a l'air de rien, mais faire des aquariums qui supportent la pression qu'il y a au fond des océans, c'est un vrai défi technologique.
Oui, tout à fait. C'est un vrai challenge et ça nécessite effectivement des hublots très épais. Plus le hublot est grand, plus il doit être épais pour résister justement à la pression. Et puis c'est de l'eau salée, donc la corrosion est très forte. Donc en fait, on est obligé de travailler avec l'aquarium. Il est dans des matériaux vraiment étudiés pour et des hublots. Ils sont en gros pour le grand public, effectivement, pour pouvoir voir les crabes et les quelques crevettes qu'on a pu maintenir et qu'on arrive à nourrir, mine de rien, à Océanopolis maintenant. Donc ce sont ces animaux-là vivent entre 900 et 1000 mètres sur une source qui s'appelle Ménesgouen, le Mont Blanc, et qui est aux Açores. Et du coup, on a l'équivalent de ces aquariums, mais version scientifique, donc sans les hublots. Nous, on a juste une caméra qui rentre à l'intérieur comme un endoscope, en fait. Et nos collègues de l'Université de Pierre et Marie Curie ont développé ces outils-là et on les embarque avec eux sur nos missions. Ce qui nous permet, d'une part, avec l'ascenseur, de remonter les animaux sous pression. Donc, l'outil s'appelle Périscope. Et on peut soit le brancher directement à un aquarium et passer via un sas, et donc l'animal ne subit pas de décompression, soit on décompresse et on recompresse tout de suite. Le gros avantage de notre crevette, c'est qu'elle supporte les chocs de pression. Mmh. Pas longtemps, mais elle le supporte. Contrairement aux poissons, par exemple, ou aux vers, qui malheureusement ne remontent en général inertes. Et c'est un vrai challenge et c'est hyper important en fait parce qu'on ne peut pas étudier la physiologie ou la vie de l'animal si on ne peut pas l'observer vivant.
Ouais, c'est toute la difficulté.
Tout à fait.
Et si la vie était apparue autour de ces sources hydrothermales ? On va s'intéresser à cette question dans un instant. Le temps d'un bivouac dans les abysses sur France Inter. C'était Feu, chanté par Fishback sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Oh, bon sang !
On y est. La voilà.
Elle est là. C'est incroyable. Ça fait 3 ans et on y est. Elle est devant nous. C'est dingue.
Au cours des 2 jours qui suivent, l'équipe cartographie une portion de 3 km de la dorsale. Ils mettent en évidence une vallée escarpée couverte d'une dense forêt de cheminées en activité. Certaines mesurent jusqu'à 18 mètres.
C'est une forêt. C'est magnifique. C'est stupéfiant. C'est fabuleux.
Extrait du documentaire intitulé « Au cœur des abysses », Anne-Marie Cambon, des scientifiques américains visiblement subjugués devant ce spectacle des fumeurs noirs et de la vie qui pullule autour. Jusqu'à quelle température les organismes qui vivent autour de ces fumeurs noirs ? Parce que vous nous avez dit, quand on descend avec le sous-marin, il fait 2 degrés autour du sous-marin, mais l'eau qui jaillit de ces geysers peut atteindre les 400 degrés. Avec la pression qu'il fait, l'eau peut monter en température vraiment comme une cocotte minute. Alors, ces organismes, quelle température ils supportent exactement ?
Alors, en fait, on a des organismes qui vivent comme un peu comme des cercles, de plus en plus près de la cheminée. Donc, les moules et les poissons sont autour de 4-5 degrés. Et puis, les plus chauds, ceux qui montent un peu plus haut, comme la crevette ou un ver qui vit dans le Pacifique, on a fait des études et des mesures entre 20 et 30 degrés. Ils peuvent même tenir à 40 degrés. Ouais. Et lorsqu'on voit les carapaces un peu brûlées, on se doute qu'ils sont montés plus haut. Mais on les voit, en fait, on les voit parce qu'ils approchent et par moments, ils se brûlent et ils reculent d'un coup, en fait. On a le côté explorateur, mais en même temps très... on pourrait passer des heures à les observer, en fait.
Alors, il y a ces températures assez élevées auxquelles ils se frottent. Il y a cette pression particulièrement écrasante. Vous vous dites, c'est 3000 mètres d'eau qui leur pèse sur la tête. Donc, il faut voir sur un ongle, il y a l'équivalent, je ne sais pas, de c'est quoi ? C'est des kilos et des kilos.
Ah oui, c'est des kilos et des kilos, oui, exactement. C'est ça.
Qui leur pèse sur la carapace.
C'est quelques Boeing.
Oui, c'est ça. C'est quelques Boeing qui leur pèsent sur l'équivalent de la surface d'un ongle. Alors, on se dit ils se sont adaptés à des conditions extrêmes. Mais si c'était l'inverse, si la vie était apparue dans ces conditions et qu'elle s'était ensuite adaptée aux conditions que nous connaissons, est-ce qu'on a tranché cette question ?
On n'a pas du tout tranché. Ça fait partie des grandes discussions scientifiques d'imaginer que la vie a démarré sous l'eau et qu'elle est ensuite qu'elle se soit diffusée sur les continents ou inversement. Ça fait partie des grands débats scientifiques. En tout cas, la vie microbienne autour des sourcils de Rotterdam se passe du reste, finalement. Et probablement sera là bien après nous, partie comme on est, comme on dit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un débat ouvert actuellement.
Quand vous dites qu'elle est moins perturbée que nous par ce qui se passe à la surface, c'est-à-dire par exemple lors des grandes extinctions qui ont pu avoir lieu, ça peut être un refuge, ces endroits où finalement l'obscurité, si le soleil est voilé, ça ne change rien.
Tout à fait. L'activité, en fait, c'est l'activité de la Terre, l'activité géologique de la Terre. C'est son moteur interne et tant qu'elle a son moteur interne, la tectonique des plaques circule et les sources hydrothermales fonctionnent. Alors une source hydrothermale en elle-même ne vit pas très longtemps d'un point de vue géologique. Elle vit quelques centaines ou milliers d'années. Donc au bout d'un moment, quand ça s'écarte trop, elle est plus sur la chaleur, elle va s'éteindre comme les volcans. Mais dans l'ensemble, il y en a toujours une qui fonctionne.
Oui, mais ça pose une autre question, une autre énigme. Ces petits îlots de biodiversité, lorsque le fumeur s'éteint et qu'il n'y a donc plus cette énergie que les organismes peuvent capter, comment ils font pour aller coloniser un autre fumeur noir qui se trouve particulier, qui peut être très loin de ce premier fumeur noir. Il y a un peu cette impression de génération spontanée autour des fumeurs noirs.
C'est un peu ça, en fait. C'est, au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'on manque de temps d'exploration pour en trouver plus, des fumeurs noirs. Ils ne sont peut-être pas si distants les uns que les autres, mais globalement, ils sont quand même assez loin, ceux qu'on connaît les uns des autres. Et c'est une deuxième grande question, une deuxième énigme qui va avec le cycle de vie, d'ailleurs. Hein. C'est comment les animaux sont capables de se disperser, d'aller d'un point à un autre au fond. Puisque quand on parle par exemple de la crevette, elle a absolument besoin de rester en tant qu'adulte près des fluides chauds pour avoir l'énergie pour manger. Donc elle ne peut pas rester dans l'eau froide longtemps et donc elle ne peut pas partir loin. Donc on pense que ce sont les larves qui peut-être prendraient les fumées, donc le panache, et prendraient les courants dans le fond et pourraient comme ça disperser. Mais alors on pose la question, comment elles arrivent à sentir, entre guillemets, qu'il y a quelque chose de chimiquement actif pour y redescendre. Parce qu'après, il faut trouver où aller.
Il faut trouver le point de chute. Ou alors on arrose large.
On en perd beaucoup. Ouais. Et...
Alors lors de ces plongées, certains scientifiques ressentent-ils l'ivresse des profondeurs, peut-être. Une envie d'aller toujours plus loin, toujours plus profond. Il y a aussi une ivresse de la marche. C'est le moment de remonter quelques minutes en surface pour partir marcher avec Sven Ortoli et ses philosophes.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On remarque, quoi.
On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord ?
Bonjour Sven Ortoli.
Bonjour.
Comme toutes les semaines, nous partons marcher avec les philosophes. C'est le titre de ce hors-série Philosophie Magazine Marcher avec les philosophes, dont vous êtes rédacteur en chef. Et c'est vrai que depuis le début de l'été, on dit que la marche, ça fait du bien pour penser, pour être bien dans son corps. Mais est-ce que parfois aussi, ça peut confiner à la folie, le fait de marcher ?
Alors c'est même pas aussi, c'est presque, je dirais presque toujours, en tout cas chez ceux qui marchent en solitaire. Il y a un moment où lorsque vous pratiquez, pas des marches d'une demi-heure, hein, c'est lorsque vous pratiquez des longues marches. Imaginez, vous êtes sur le GR20 en Corse, où vous êtes dans une montagne quelconque que vous connaissez, et vous marchez, ça fait des heures, et puis ça va faire des jours, et vous dormez éventuellement. Eh bien, il y a des moments où vous commencez à parler, vous parlez avec les rochers, vous parlez avec les arbres. Est-ce que c'est de la folie? Moi, je dirais non, je dis c'est normal, mais ça ressemble un peu à quelque chose qui sort de l'ordinaire, en tout cas. Voilà. C'est ce qu'on va appeler, il y a une sorte de dépassement. C'est fort, c'est intense et c'est effrayant un peu.
Et alors, il y a des exemples dans la littérature, dans la philosophie, d'auteurs qui ont pété un plomb en marchant.
Alors, il y en a un paquet. La question, c'est est-ce qu'il y en a qui n'ont pas pété un plomb? Probablement. Mais à commencer par le poète allemand Novalis, qui vient en France pour être précepteur du consul à Bordeaux, du consul d'Allemagne à Bordeaux. Et il traverse toute la France par les montagnes d'Auvergne, Colmar, Lyon, les montagnes d'Auvergne. Il est seul. On est en 1800, au milieu du 19e siècle. Hein. Il est tout seul et il arrive là-bas. Transi, glacé, il a souvent eu peur, et il en repart aussitôt. Il prend pas le poste, il repart. Et il devient fou, strictement parlé. Et avant de devenir fou, ou pendant qu'il devient fou, il écrit ce qu'on va appeler plus tard les poèmes de la folie. Alors voilà, typiquement, on a quelqu'un qui a fait cette expérience et qui est devenu fou au sens qu'on a habituel du terme.
Alors là, on a un exemple solitaire, un cas isolé, on va dire. Est-ce que par paquet, il est arrivé dans l'histoire aussi que l'on devienne fou un peu plus collectivement en marchant?
Alors, il y a un exemple de folie collective de la marche qui est repéré par... Vous savez, c'est le début de la psychiatrie, la fin du 19e siècle, Charcot, et puis bientôt Freud. Hein, mais enfin, en l'occurrence, c'est Charcot. Et à Bordeaux, il y a un psychiatre qui observe un jeune homme de 19 ans qui est en train de pleurer et qui lui explique que de temps en temps, il souffre, c'est le psychiatre qui va dire ça, de tourisme pathologique. On est à la fin du 19e siècle, on parle de tourisme pathologique, ce qui est aujourd'hui une pathologie très 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 moderne. Et donc, il explique que de temps en temps, il c'est une compulsion, il marche pendant 70 km dans la journée, et comme ça, il va traverser l'Europe, il va aller au Maghreb, il va aller en Russie. Enfin, c'est un marcheur absolument effréné qui oublie à un moment où il est, qui oublie qui il est. Et donc, on repère ce cas, et du coup... Des psychiatres à travers l'Europe repèrent des tas d'autres cas. Il y a toute une épidémie, ça dure 30 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une épidémie? C'est pas au sens strict du terme, c'est au sens mental du terme. C'est-à-dire que à partir du moment où vous inventez une pathologie, vous la repérez. Mais de quoi elle témoigne, cette pathologie? Plus essentiellement, de nos rapports avec la folie d'une part, mais plus essentiellement du fait que la marche devient quelque chose de très important en Europe à partir de la fin du 19e siècle. Et le rapport avec la folie, lui, il est plus maigre, là. Mais au fond, je reviens à ce qu'on disait au tout début, le rapport avec la folie, il est essentiel, parce que, encore une fois, si vous marchez seul, vous êtes, comme dit, il y a un poète contemporain, un poète Kenneth White, qui vit en France, d'ailleurs, qui vit en Bretagne, qui dit, un marcheur est quelqu'un qui marche bien sûr, mais qui se situe dans les marches de l'être. Et c'est dans ces marches de l'être qu'on retrouve des gens comme, c'est Rimbaud qui dit, je suis un piéton. Allez, en avant toutes.
Merci Sven Ortoli, en avant toutes. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, creuser cette question, il y a bien sûr votre hors-série Philosophie Magazine, Marcher avec les philosophes. À la semaine prochaine Sven.
Oui, avec plaisir, merci.
Marianne Cambon, est-ce que vous, lorsque vous étiez à bord de votre sous-marin, vous avez éprouvé cette sensation de grisement, un peu de d'ivresse des profondeurs, de vouloir descendre toujours plus profond, de vouloir y rester?
Alors descendre plus profond peut-être pas, mais alors y rester, oui, je crois que ça fait rigoler les pilotes à chaque fois, parce que j'ai qu'une envie, c'est qu'on garde la plongée encore plus longtemps, j'en demande toujours un peu plus, voire prendre le sous-marin moi-même pour aller me promener. C'est la vue en relief et la netteté de ce qu'on voit et la beauté de ce qu'on voit est tellement impressionnante que ça marque la rétine et on n'a pas envie de remonter.
Ouais. Il y a un côté grisant donc dans cette exploration.
Complètement.
Toujours aller voir un peu plus loin.
Un petit peu plus loin.
Allez, suite et fin de nos explorations abyssales, grisantes. Dans un instant, on va faire un petit détour par la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond qui existe sur Terre.
De sel sur fond bleu, quand on regarde le ciel en mieux. Envie d'aller au gré des courants, dériver, changer de continent. C'est comme une étincelle dans tes yeux, où brille d'autres soleils, tant mieux. Envie d'oublier les mots blessants, se laisser porter vers d'autres gens. Ce soir mon cœur ultramarine, à force de rester dans le vague, s'était pris d'une lame de spleen, et danse, la matraque. C'est comme d'être à l'abri quand il pleut, et que les gouttes font du bruit en mieux. Envie de filer comme les goélands, quitter la jetée tout doucement. C'est à la fin du jour être deux, à trouver le temps trop court, tant mieux. L'occasion rêvée d'aller au vent, pour sentir claquer ses sentiments. Ce soir mon cœur ultramarine, et le sable sur lequel je tague, ton prénom d'embrun libertine. Ce soir mon cœur ultramarine, à force de rester dans le vague, s'était pris d'une lame de spleen, et danse, la matraque. C'est comme un goût de sel sur fond bleu, quand on regarde le ciel au mieux, envie d'aller au gré des courants. Dériver, changer de continent.
Ultramarine, c'était Art Mengo sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Dans le port d'Anvers, à bord du Scaldis, spécialement construit pour son expérience, le professeur Picard et le professeur Cosins, son adjoint, mettent la dernière main aux préparatifs de leur expédition sous-marine. La sphère d'acier qui doit les descendre à 6000 mètres de profondeur a été soigneusement auscultée au moyen de plaques photographiques placées sur toute sa surface extérieure et impressionnées par une masse de radium placée à l'intérieur pour déceler toute possible faiblesse ou fissure. Les réservoirs sustentateurs qu'on remplira d'essence ont été essayés. La sphère de 10 tonnes sera suspendue à une coque supérieure où prendront place les réservoirs, en même temps que deux accumulateurs, deux masses de lest, un double moteur à hélice et deux projecteurs. Grâce à ce dirigeable sous-marin, le professeur Picard compte bientôt effectuer sa première plongée dans le golfe de Guinée. L'homme qui le premier explora la stratosphère va le premier explorer l'abîme.
Un extrait des actualités françaises de 1947, le professeur Auguste Picard qui explorait cette fosse des Mariannes. C'est le grand-père de Bertrand Picard qui lui, on le sait, a fait le tour du globe avec son avion solaire. Là, c'était donc le grand-père Auguste Picard, les profondeurs 11 kilomètres de profondeur, la fosse des Mariannes. Là aussi, Anne-Marie Cambon, on pensait que la vie n'existerait pas à de telles profondeurs.
Tout à fait. C'était important, en plus, ces plongées, parce qu'à l'époque, on voulait quand même enfouir les produits radioactifs nucléaires au fond. Et quand Jacques Picard a dit qu'il y avait des crevettes et un poisson, ils ont dit finalement, on ne le fera pas. Et ça a été. Je pense que c'est un des messages qu'on essaye de faire passer aujourd'hui. Les fonds marins sont habités, il y a des écosystèmes, il y a des familles finalement, il y a des vies, des villes, et c'est pas du tout inerte et inhabité et froid et hostile en fait. Ces animaux vivent très bien, ils sont parfaitement adaptés, c'est pas hostile pour eux, et tout ce qu'on jette de la surface finit au fond, malheureusement.
Ça inspire quelques questions à nos auditeurs. Évidemment, ce que vous nous racontez depuis une heure, Jean de Lyon dit « L'existence de cette forme de vie ne devrait-elle pas élargir la gamme des planètes susceptibles d'héberger la vie ?» Tout d'un coup, on se rend compte que dans des eaux glacées, dans les plus grandes profondeurs, dans l'obscurité absolue, la vie peut proliférer.
Du moment qu'il y a une source chimique et un tout petit peu peut-être de température, c'est une des grandes questions pour Mars, de savoir si elle n'hébergerait pas des formes de micro-organismes, effectivement, les exoplanètes. On en parle beaucoup en microbiologie aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a aussi ces satellites des géantes gazeuses où on soupçonne l'existence d'océans souterrains qui pourraient, là encore,
complètement
abriter la vie. Jean-Paul vous dit, il y a une vingaine d'années, on parlait d'exploitation de nodules polymétalliques dans les fonds marins. Ouais. Qu'en est-il, vous demande-t-il?
On y est toujours. Alors, ils sont à 6000 mètres de fond, dans des plaines abyssales pacifiques. La France dispose d'un permis, d'ailleurs. Et on en reparle régulièrement, puisque le prix des métaux est élevé et que surtout, les mines à ciel ouvert, les mines de surface, sont beaucoup moins enrichis en minéraux importants. Et les sources hydrothermales ont exactement la même épée de Damoclès autour de la tête. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de groupes miniers et industriels pour les besoins des États, de toute façon, donc les nôtres, téléphones portables, écrans plats et compagnie, d'aller chercher des minerais enrichis dans ces grands fonds. Et c'est aussi notre rôle en tant que biologiste de dire qu'avant d'y aller, il faut comprendre comment ça fonctionne et savoir comment ça se disperse et imaginer l'impact que pourrait éventuellement avoir une activité minière, puisque je pense qu'on l'a peut-être pas assez fait avant de forer partout sur la surface.
Alors ce qui peut-être nous rassurer, c'est qu'avant d'aller exploiter les ressources à 3000 mètres de profondeur, pour le moment technologiquement, ce serait très coûteux, on imagine, d'aller exploiter ces grands fonds.
Je pense qu'il y a des gens qui sont bien avancés, en fait. Ah oui. Bon, pour l'instant, on a des moratoires et on est en phase d'exploration pour essayer justement de comprendre. Et la réflexion tourne autour de mettre des zones d'air marine protégées profondes, en fait, pour préserver la diversité biologique et la richesse biologique de ces grands fonds marins qu'on connaît finalement si mal.
Une dernière question d'Aurélien. La croûte terrestre pourrait-elle être le siège d'une biomasse interne supérieure à celle qui vit à la surface de la Terre?
C'est un des débats actuels, effectivement, que la biomasse contenue dans les fonds marins, que ce soit au niveau des sédiments ou de la croûte océanique elle-même, serait supérieure effectivement à ce qu'on connaît sur la surface des continents, puisqu'en fait la plaine abyssale est bien plus importante que la surface terrestre.
On ne connaîtrait que la partie émergée de la vie.
L'iceberg.
Et il y aurait cette partie enfouie.
Tout à fait.
Que l'on a négligée, que l'on n'a pas su voir.
Oui.
Allez, on remonte en surface, mais on reste en partie sur l'eau pour visiter Venise avec nos invités de la deuxième heure, Julie Bourges et Thomas Jonglaise. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
L'un et l'autre, vous êtes séparément tombés sous le charme de Venise. C'est un coup de foudre que vous avez éprouvé pour cette ville?
Je peux pas dire qu'au début c'était un coup de foudre. Enfin, c'est pas une ville que je voulais visiter. Par contre, au moment où j'ai mis le pied sur le Vaporetto qui m'emmenait jusqu'au centre-ville de Venise, j'avoue que j'ai craqué. C'était vraiment le début d'une longue histoire d'amour.
Thomas Jonglaise.
Moi, dans mon cas, je l'ai visité pour la première fois avec l'idée d'y habiter. Un mauvais jour de janvier, sous la pluie, 4 degrés. Mais comme je n'y allais pas en touriste, j'y allais en me disant, est-ce que je veux habiter dans cette ville? J'ai passé un week-end extraordinaire. En sortant du week-end le dimanche soir, en reprenant l'avion, je me suis dit, c'est ici.
Vous y avez vécu 7 ans. Allez, vous allez nous emmener à la découverte de Venise, au-delà des clichés. Merci Marianne Cambon et bon retour
Merci.
En Bretagne.
Merci.
Arrivo alla stazione di Venezia Santa Lucia tra 10 minuti. Fine corsa.